Avant de donc Clovis Maillet et Hélène Vial, qui sont affiliés à votre intervention, peut-être interviendront à la suite, Clovis, si vous souhaitez intervenir, sinon je lis votre question. Mais on a Jules Falquet, peut-être vous souhaitiez, ou Barbara Klosowski, vous souhaitiez poser une question à Camille Padoumettre.
Oui, j'ai une question et un petit commentaire, alors, mais je vais dire les deux d'un coup et comme ça après, vous voyez. Je trouve ça formidable, tout ce qui se passe ces dernières années avec cette mobilisation des jeunes femmes. Mais par rapport à l'histoire du mouvement féministe, notamment en France, il n'y a pas eu dans le film, enfin, il n'y a pas eu une seule voix féministe dans les années 70, par exemple. Et donc, il y avait des conflits. Qui cassait l'appel à la sororité, mais des conflits qui posaient déjà la question qui vous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, tout le mouvement psychanalyse et politique, Psychépo, Antoinette Fouque, justement, était accusée d'essentialisme, à un moment donné, où d'une manière générale, il y avait une critique de l'essentialisme, et donc, juste valoriser la maternité. Et dans l'évolution ultérieure, avec la création des éditions des femmes, etc., a vraiment réfléchi à cette idée-là d'appropriation du corps féminin avec l'apparition des mères porteuses, des mères donneuses. Et ça a donné dans les mouvements féministes, particulièrement aux États-Unis, alors que ça se passait en France, des associations de femmes qui revendiquaient de se réapproprier la maternité en refusant l'anonymat des donneuses et des porteuses et qui aujourd'hui peuvent accompagner des couples de femmes ou d'hommes qui veulent avoir des enfants. Donc ça remonte à une longue histoire et dans le féminisme aussi, bon, on en a déjà parlé hier, peut-être pas en public, mais entre nous, il y a Nicole-Claude Mathieu qui est extrêmement importante dans la question des genres. Alors ça c'est une question, est-ce que vous avez réfléchi à quel est l'impact pour vous de ce mouvement de Psychépo et de ce genre de réflexion? Et la deuxième chose, c'est par rapport à la sororité, où je réagis en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés du monde, toutes les femmes ne sont pas sœurs, parce qu'il y a des différences de génération. Et beaucoup de sociétés, notamment autochtones, valorisent cette hétérogénéité des liens, c'est-à-dire que la manière dont on se comporte avec des sœurs ou des frères n'est pas la même qu'avec des mères et leurs frères, ou avec des pères et leurs sœurs, ou avec des grands-parents du côté maternel ou paternel. Donc, très très couramment, par exemple, vis-à-vis des grand-mère ou des grands-pères, il y a ce qu'on appelle des relations à plaisanterie à travers le monde. Ce n'est pas toutes les sociétés. Alors que vis-à-vis du père et de la mère, il y a d'autres contraintes. Vis-à-vis des beaux-parents, il y a beaucoup de tabous, etc. Et donc, il me semblait que dans le fait de résumer l'enjeu de la difficulté en Occident de la sororité comme un enjeu de rivalité et de compétition, c'est peut-être pas le vécu de toutes les femmes, parce que il y a aussi des enjeux vis-à-vis des mères et des grands-mères, et donc par exemple qui peuvent se manifester de manière extrêmement douloureuse et même parfois meurtrière avec l'anorexie. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Moi, il se trouve qu'en 1995, j'ai sorti un livre qui s'appelait Adolescence et sexualité, l'entre-deux, et qui correspondait à une commande du ministère de la Santé au moment de l'épidémie du sida. Et donc, j'avais choisi de comparer justement le rapport à l'amour, à la mort et aux interdits à travers plein de sociétés à travers le monde. Et donc, ça m'avait permis de voir l'incroyable disponibilité de créativité des sociétés humaines vis-à-vis de ces questions-là. Et je pense que cette diversité-là n'est pas juste culturelle. C'est ce que j'essayais de dire dans le livre à l'époque, elle correspond à des vécus aujourd'hui, y compris en Occident. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous, toutes, complètement déterminés par un seul modèle patriarcal. Et même dans le modèle patriarcal, par exemple, vis-à-vis de la polygamie, qui n'est déjà pas un enjeu, en tout cas officiel en Occident depuis très longtemps, mais qui en réalité, quand des sociétés polygames viennent en France, font remarquer qu'il y a tellement d'hommes qui ont des maîtresses et que finalement, c'est inégalitaire parce qu'ils ne traitent pas les maîtresses comme ils traitent leurs épouses dans des sociétés polygames. Et donc, la dernière chose, c'est qu'il y a un tabou assez partagé à travers le monde dans les sociétés polygames d'épouser des sœurs. Ça revient à quelque chose que vous avez dit. Or, il se trouve, Françoise Héritier, qui est anthropologue, a beaucoup commenté là-dessus en disant que c'était un universel. Or, ce n'est pas du tout un universel parce que c'est valorisé chez les aborigènes d'Australie d'épouser des sœurs. Et par rapport aux témoignages que j'ai pu rencontrer de co-épouses, elles sont toujours en train de dire « c'est mieux d'être co-épouse comme sœur parce qu'on est plus solidaire ». Alors que quand on est co-épouse en n'ayant pas grandi ensemble comme petite fille et en faisant des choses ensemble, eh bien, en fait, il y a plus de rivalité.
Merci beaucoup pour ces réflexions. Alors, dans la révolution du féminin, je consacre toute la deuxième partie à explorer ce que je considère être les trois grandes interprétations qui ont été données du féminin par l'anthropologie, en premier chapitre, par la psychanalyse et par la pensée féministe. Et bien évidemment, j'ai travaillé et réfléchi sur cette question du féminisme différentialiste porté notamment par Antoinette Fouque, mais aussi Julia Kristeva, Hélène Tixous, etc. Et ce qui m'a intéressé justement, c'est d'observer comment très vite leurs propositions sont rejetées. Et d'ailleurs, elles ont toutes quasiment terminé par s'exiler et elles ont connu aux États-Unis une postérité intellectuelle qu'elles n'ont jamais connue en France du fait de cette résistance. Et donc la synthèse intellectuelle que je décrivais tout à l'heure, donc pensée beauvoirienne, universalisme égalitariste, féminisme matérialiste et études de genre un peu plus tardivement, c'est précisément ce bloc-là qui a fait que la proposition différentialiste des Françaises notamment était si difficile à porter et finalement a été d'une certaine façon quasi ostracisée du champ féministe. Et qu'on a ensuite entamé ces 50 années de discrédit, d'une certaine façon, de cette proposition autour de la corporité. Mais ce qui me semble intéressant, et votre remarque me permet de préciser, c'est que, effectivement, ce que propose Antoinette Fouque, c'est une réflexion féministe qui parle de cette valorisation, quasi exaltation, de ce qu'elle appelle la puissance maternelle. Et donc, elle a toute une proposition autour de ça. Elle dit. Ce n'est pas seulement une tare d'être maternelle, ça peut être génial, avec une génitale, avec cette formule qui est un petit jeu de mots. Et c'est ce qui a longtemps été, je pense, le nœud du rejet féministe, en tout cas de cette proposition, c'est que le problème, c'est que la condition maternelle, c'est le socle même, en fait, de la condition objectivée aliénée des femmes depuis à peu près l'aube des temps, puisque à partir du moment où, avec Aristote, on a une définition fonctionnaliste de l'existence féminine, comme étant déterminée par sa nature, créatrice, ce qu'on observe, et c'est ce que j'ai montré dans la première partie du livre, c'est que cette définition fonctionnaliste, elle survit au tournant de la modernité démocratique et elle reste en fait un peu le soubassement de nos sociétés occidentales. Et donc, des féministes qui partent du maternel, c'était compliqué, puisqu'il s'agissait à la fois de rejeter et en même temps de valoriser une même condition qui est celle de la condition maternelle. Ce qui me paraît aujourd'hui justement pouvoir être proposé et défendu, c'est que du fait des droits conquis dans ces mêmes années 70, et du fait de la possibilité désormais dans laquelle sont les femmes de pouvoir choisir le moment d'une grossesse, de pouvoir choisir même de ne pas être mère, cette question du maternel est en quelque sorte dissociée, c'est-à-dire que la maternité ne doit plus être, en tout cas, un des critères déterminants ou définissant ce que c'est que d'être une femme. Et donc, d'une certaine façon, grâce à ces conquêtes, eh bien, on peut évacuer cette question du maternel comme étant aliénante. Et donc, on peut réinvestir le maternel de façon positive, comme je propose de le faire, ou comme Iris Marion le fait également, c'est-à-dire penser l'expérience vécue de la maternité et de la grossesse en la réinterprétant, justement, à rebours de la thèse de l'aliénation, comme le moment Iris Marion Young a une interprétation que je trouve vraiment très, très, très enthousiasmant, qui dit que la dichotomie sujet-objet que les femmes subissent peut-être encore plus que les hommes dans nos sociétés occidentales, elle se résout dans l'expérience de la grossesse, qui est le moment où les femmes peuvent éprouver la réunion de leur double condition de sujet et de corps, et qu'elles peuvent l'éprouver de façon réunifiante en quelque sorte. Et que la grossesse est peut-être le moment paroxystique où justement les femmes s'extirpent de leur condition objective. Donc c'est totalement contre-intuitif par rapport à ce que longtemps les féministes ont dit sur la base, d'ailleurs, c'est pas d'une interprétation très, très négative de Beauvoir elle-même hein, sur cette condition maternelle. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui, on est dans un contexte intellectuel qui nous permet de revenir à justement cette question du maternel, notamment, mais différemment, de façon désessentialisée, puisqu'il y a ce pouvoir, finalement, puisque la maternité n'est plus un destin, notamment. Voilà. Et le deuxième élément, c'était donc, oui, c'est intéressant ce que vous dites sur les mères, les grands-mères, l'anorexie. Je ne vais pas développer parce qu'il y a d'autres sujets, mais je travaille beaucoup cette question des troubles du comportement alimentaire et je trouve que ce sont des signaux assez importants qui nous permettent de comprendre pas mal de choses sur ces sujets-là. Mais bon, voilà, je ne vais pas développer, on en parlera peut-être.